vous suit.
Les titres du journal.
Les 7 communes du projet de parc naturel de la vallée du Trien, de l'Arpie à la cime de l'Est, s'expriment ce dimanche sur la poursuite des travaux. En cas de oui, la Confédération devra encore valider le label. Clapotis de l'eau des bis, ronronnement des télécabines en station ou encore tintement des cloches, le bruit du Valais se dévoile dans le cadre d'une nouvelle exposition. En triathlon longue distance, la saison 2024 a débuté pour le Bellerin Florent Ferrara. Et même si le trentenaire n'a pas renouvelé sa licence professionnelle acquise l'an dernier, il n'en reste pas moins ambitieux.
Enfin, du côté de la météo, après le soleil de ce matin, les averses sont attendues pour cet après-midi et c'est le même type de temps prévu demain. On fait le point complet à la fin du journal. Léa Journaux, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour. Pardon, j'ai besoin d'éternuer.
J'ai l'impression d'avoir ma saucière bien
j'ai
aimée
besoin
en face.
D'éternuer, c'est horrible. Espérons que je n'éternue pas pendant ce journal. Bref, reprenons. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le futur du parc naturel de la vallée du Trien, de l'Arpie à la cime de l'Est, se dessine ce dimanche. Saint-Maurice, Trien, Martinicon, Béviona, Vernaya, Salvan et Finhaut se prononcent donc dimanche sur le projet de parc naturel de la vallée du Trien. Les 7 communes choisiront si elles acceptent de se lier à l'association du parc pour les 10 prochaines années. Et si l'une d'entre elles venait à refuser, le contrat pourrait se faire sur un territoire restreint. Luc Pignat, responsable du projet de parc naturel régional de la vallée du Trien, de l'Arpie à la cime de l'Est.
Au minimum, il faut que le parc naturel régional soit constitué de 100 km². Puis aujourd'hui, avec l'ensemble des 7 communes, on est à 222 km². Donc la première réponse, c'est non. Si une commune n'accepte pas ce contrat de parc, on peut poursuivre l'aventure avec les autres communes qui devront se répartir un peu le budget qui avait été consenti par la commune qui dit non. Il ne faudrait pas toutefois qu'une commune qui dirait non soit centrale, puisqu'il faut une cohérence territoriale. Donc ce vote n'est qu'une étape peut-être la plus importante pour ensuite demander le label final à la Confédération, et c'est la Confédération qui déterminera si le territoire fait plus de 100 km², ça c'est une évidence, et puis si la cohérence territoriale est garantie. Et puis pour la commune qui dirait non, elle aurait 10 ans pour observer ce qui se fait dans les communes voisines, et en 2034, il y aurait une nouvelle votation pour un contrat qui couvrirait les années 2035 à 2045.
Aucun groupe d'opposants n'étant sorti du bois, les porteurs du projet s'estiment confiants. Ils sont tout de même conscients qu'une masse silencieuse peut avoir raison du concept du parc, à savoir que la Confédération doit encore valider le label après la votation. Et c'était un sujet signé Valérie Favre. La Foire du Valais a dévoilé ce matin son thème pour la 64e édition qui se déroulera du 27 septembre au 6 octobre prochain. Et la manifestation tournera autour du jeu.
Bienvenue dans un Valais qui bruisse.
Le musée d'histoire du Valais a mis sur pied une exposition qui met l'écoute au centre de l'attention. Elle propose un parcours à travers les paysages sonores du canton. Il peut s'agir de sons du quotidien ou encore des voix et des musiques qui accompagnent les changements de la société. Samuel Pont, ethnologue et conservateur au musée d'histoire du Valais.
C'est d'abord une prise de conscience de l'importance de la dimension sonore pour un territoire, de l'importance de la dimension sonore dans notre vécu quotidien, qui a suscité des questions sur comment un musée d'histoire peut, à travers cette porte d'entrée du sonore, enrichir ou développer nos connaissances historiques, anthropologiques, sur un lieu, en l'occurrence le canton du Valais, un territoire alpin. On est en permanence baigné dans des sonorités auxquelles on ne prête pas vraiment attention. Et pourtant, elles sont là, elles sont d'une importance centrale pour notre perception des lieux, pour notre manière d'être ensemble. Effectivement, c'est peut-être pas tout à fait intuitif, mais c'est un peu l'originalité du projet.
En plus de l'exposition, le musée d'histoire du Valais a publié un cahier regroupant les différents paysages sonores du canton. Une publication qui invite, elle aussi, à prêter une oreille attentive à leurs caractéristiques et à leur évolution au cours du XXe siècle. Alain Dubois, chef du service de la culture.
L'objectif a vraiment été, dans le cadre de la publication aussi, de faire appel à différentes compétences de musiciens, mais aussi d'acousticiens, de personnes qui sont aussi spécialisées dans l'environnement sonore. J'ai par exemple eu l'occasion aussi de publier un article qui s'intéressait au son du Valais à partir des documents d'archives, mais avant l'apparition des enregistrements sonores. Et là, c'est également un aspect un petit peu différent parce qu'on y accède à cet environnement sonore à travers le truchement de l'écrit et donc par une médiation, une interprétation déjà de cet environnement sonore.
Le vernissage de l'exposition aura lieu demain à 18h. Elle ouvrira ensuite officiellement ses portes au public au pénitenciation dès samedi et ce jusqu'au 12 janvier 2025. Un sujet réalisé par nos confrères de Rhône FM. Les villes de Bienne et de Berne sont toujours en course pour organiser le concours Eurovision en 2025. Les conseils municipaux des deux plus grandes villes du canton de Berne ont décidé d'examiner la possibilité de soumettre une candidature avec le groupe Berne Expo pour accueillir la manifestation. À noter que les villes de Genève et Zurich ont aussi manifesté leur intérêt pour ce concours. Le National veut que les cantons puissent soutenir fiscalement les investissements pour végétaliser les toits et les façades. Le Conseil des États temporise, voulant d'abord examiner les effets d'une telle végétalisation. Il a tacitement accepté aujourd'hui une motion modifiée en ce sens. Les assassins, meurtriers et violeurs adultes récidivistes ne doivent pas être automatiquement internés. Le National est revenu aujourd'hui sur cette disposition qu'il avait ajoutée. Il a en revanche insisté pour augmenter la peine maximale pour les assassins mineurs.
La question du nom de famille des époux est à nouveau examinée par le Parlement.
Tout le monde trouve que la loi actuelle n'est pas satisfaisante et qu'il faut réintroduire le double nom de famille. Mais les élus ne sont pas d'accord sur la manière de procéder. Le Conseil national a opté pour une variante ce matin, un compromis qui laisse quelques regrets à gauche comme à droite. Les explications de notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier.
Trois options étaient sur la table. L'Union démocratique du centre voulait revenir en arrière et attribuer le nom du mari aux deux époux, avec la possibilité d'ajouter le nom de jeune fille pour les femmes. Les libéraux radicaux et le centre voulaient autoriser les doubles noms pour les deux époux, et la gauche autoriser les doubles noms pour les deux époux et pour leurs enfants. C'est finalement la proposition médiane qui l'a emportée. Les mariés pourront choisir de garder leur nom, prendre celui de l'autre ou combiner les deux dans l'ordre qui leur plaît avec ou sans trait d'union. Les triples noms ne seront pas autorisés. Mais les futurs époux devront opter pour un seul nom pour leurs enfants. Ils pourront encore le modifier d'un commun accord dans l'année qui suit la naissance. L'objectif est de donner une grande flexibilité au couple, mais sans reporter sur les enfants la responsabilité de choisir entre les deux noms de leurs parents quand ils se marieront à leur tour. Cette variante a finalement été adoptée par 139 voix contre 46 et 7 abstentions. Les oppositions viennent de l'Union démocratique du centre, mais presque toutes les femmes UDC ont voté oui.
Et la question du double nom de famille doit maintenant être examinée par le Conseil des États. Les titulaires de données géologiques ne doivent pas être obligés de les mettre à disposition de la Confédération. Le Conseil des États a rejeté un projet de loi du Conseil fédéral visant à permettre une meilleure planification de l'utilisation du sous-sol. Le National doit encore se prononcer. On passe au sport. La saison 2024 de Florent Ferrara est lancée. Le triathlète bellerin s'est adjugé la troisième place de sa catégorie d'âge dimanche dernier lors du semi Ironman de Rapperswil. Une épreuve qui faisait office de premier grand objectif de l'année pour le Chablaisien. Cette année s'annonce différente puisque le trentenaire n'a pas renouvelé sa licence professionnelle. Après avoir franchi une étape importante l'an dernier, il a décidé de ne pas réitérer l'expérience en 2024 et il revient sur cette décision.
D'une part, mes performances ont été bonnes, mais c'est vrai que le niveau professionnel est très très haut. Les résultats n'ont pas été extraordinaires sur le plan de cette catégorie, donc professionnelle. Et puis, les autres raisons, c'est une année un peu spéciale pour moi, puisque je vais me marier en octobre, et donc peut-être moins de temps, peut-être une moins longue saison, et puis un calendrier chez les professionnels qui est quand même restreint, avec l'obligation d'aller beaucoup courir à l'étranger. Donc une question de simplicité aussi, de pouvoir courir et pouvoir faire les courses principales suisses en fait.
Un choix dicté par le temps et les moyens à disposition, mais le Vaudois ne semble pas perturbé à en croire ses résultats. Avant ce podium à Rapperswil, il s'est illustré sur 3 des 6 étapes du Tour du Chablais alors qu'il revenait affûté d'un camp d'entraînement en Espagne. On retrouve Florent Ferrara.
En général, les triathlètes, on essaye de partir une ou deux fois en camp d'entraînement durant l'hiver pour profiter des conditions météo à l'étranger, pour pouvoir accumuler des heures d'entraînement et des heures surtout de vélo, chose qu'en Suisse, c'est compliqué à certaines périodes. En général, on essaye de placer quelques courses pour mettre un peu de rythme en début de saison. Et le Tour du Chablais, ben, c'est l'idéal, en plus à domicile, avec plein de monde qu'on connaît. hyper plaisir de croiser tout ce monde, ouais, de profiter de ces belles ambiances.
Et pour le reste de la saison, Florent Ferrara sera engagé lors de l'Ironman de Thun début juillet, puis celui d'Italie à Cervia en septembre prochain. Un sujet réalisé par Ludovic Turin.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.